Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Bonsoir, ou plutôt rebonsoir, bienvenue dans le débat de ce soir. Charlie, l'hypercachère, 50 à Falavier, le 13 novembre, des attaques quasi quotidiennes signées Boko Haram dans la région du lac Tchad, Jakarta, San Bernardino, l'hôtel Radisson à Bamako, l'hôtel Splendide à Ouagadougou, l'université de Chassarda, c'était encore ce matin au Pakistan, sans parler de l'attaque de Kaboul. Force est de constater que le terrorisme crève l'écran, sature nos postes de radio, occupe la une des journaux, car il faut bien informer et c'est là tout le problème. Comme le disait Raymond Aron, le terrorisme ne veut pas que beaucoup de gens meurent, il veut que beaucoup de gens le sachent. Alors les médias parlent-ils trop de terrorisme au risque d'en faire la publicité? C'est le débat de ce soir. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio deux invités. David Thompson, bonsoir.
Bonsoir.
Les auditeurs vous connaissent bien, vous êtes journaliste à RFI, en charge des questions djihadistes et vous êtes l'auteur d'un livre, Les Français djihadistes, paru aux éditions Les Arènes. Deuxième invité, Philippe Antoine, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur de la rédaction de la radio RMC et puis vous avez occupé le poste de rédacteur en chef à BFM. Alors, Philippe Antoine, ma première question sera pour vous. Je faisais une énumération terrible il y a encore quelques secondes. Est-ce que la question de l'omniprésence du terrorisme, vous vous la posez, vous, en tant que directeur de la rédaction de la radio RMC aujourd'hui et précédemment dans vos autres fonctions ?
On se la pose sans doute pas comme ça, c'est-à-dire est-ce qu'on en parle trop, mais on se demande assez régulièrement si déjà on traite bien de cette actualité et si au bout d'un moment, elle ne lasse pas... les auditeurs, mais en général le public, le risque, moi je pense, c'est plus le côté matraquage. Et on est maintenant un peu plus de 2 mois après les attentats de janvier, et force est de constater, c'est qu'on en parle encore beaucoup, 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 beaucoup. Donc voilà, il faut, comme toujours dans ce métier, il faut savoir choisir, décider, hiérarchiser, et décider si une information la traite abondamment ou si au contraire on lui laisse une place plus petite, et ça bouge de jour en jour, j'ai envie de dire.
Alors concrètement, est-ce qu'il vous est déjà arrivé dans les dernières semaines par exemple de vous dire non, ça on ne le traite pas aujourd'hui, ça fait trop, ou on lui donne une plus petite place que la place qu'elle aurait eue la semaine d'avant par exemple?
Par exemple, ce qui s'est passé devant le commissariat du 18e arrondissement
à la Goutte d'Or.
Pour nous, radio, alors moi je parle au nom de RMC, on est une radio d'information, mais on ne fait pas que de l'information. Et la décision que nous on doit prendre assez vite, c'est est-ce qu'on part en spécial, par exemple. Et évidemment, c'est une décision importante, ça veut dire qu'on casse tout, ça veut dire que les habitudes des auditeurs, on les casse totalement, et qu'on décide surtout éditorialement que l'événement auquel on assiste, il mérite que on y consacre beaucoup de temps. Par exemple, sur le 18e arrondissement, on a décidé de ne pas casser l'antenne et de le traiter beaucoup, mais pas plus alors, que ça.
Avant de donner la parole à David aussi, qui voudra réagir, qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de ne pas partir en spécial, comme vous dites?
Parce que on n'a pas assez d'informations sur le moment, sur qui est cette personne, ce qui s'est passé exactement entre les policiers et l'homme qui a été abattu. Donc voilà, c'est pas assez d'éléments pour dire ce que l'on vient de voir mérite que on y passe 2 heures. Au risque de broder, au risque de donner de mauvaises informations. Et donc voilà.
De se répéter, d'arriver peut-être à un effet de saturation aussi chez l'auditeur.
Et en plus, ça vient après des semaines et des semaines où on a parlé beaucoup, beaucoup de ça. Donc justement, il faut savoir.
Et quelques semaines avant les commémorations aussi de la première année des attentats de Charlie. David Thompson, comment le spécialiste du djihadisme que vous êtes regarde le traitement médiatique du terrorisme qui est fait en France, et pas seulement d'ailleurs?
Il faut bien dire que dans toutes les rédactions de France, cette actualité djihadiste, elle pose de vrais problèmes dans les rédactions, parce que la première raison, c'est que les djihadistes sont maîtres du temps médiatique. Ce sont eux qui cherchent à faire parler d'eux. Le numéro 1 d'Al-Qaïda, Emmanuel Zawahiri, disait « Le djihad médiatique, c'est la moitié du combat ». Aujourd'hui, l'État islamique, c'est même plus que ça, c'est quasiment le combat. Lorsque il y a un attentat qui se déroule en France ou ailleurs, effectivement, la phrase de Raymond Aron, elle est très juste. C'est-à-dire qu'il cherche à faire le plus de morts possible, mais il cherche d'abord à faire durer ce temps, à faire durer le moment dans lequel ils vont être l'élément central du breaking news.
À faire durer la terreur aussi.
Faire durer la terreur. Le problème pour les rédactions, et je pense que toutes les rédactions françaises, parce que le phénomène il a explosé, sans mauvais jeu de mots, médiatiquement, on va dire au printemps, au début 2014, et le traitement médiatique d'une vidéo de l'État islamique, il est plus du tout le même aujourd'hui qu'il y a deux ans.
C'est-à-dire quoi? Il y a deux ans, on avait une vidéo, on l'a diffusée, on en parlait tout de suite, aujourd'hui c'est plus pareil.
J'ai l'impression qu'en tout cas aujourd'hui, à l'époque, quand sortait une vidéo de décapitation de l'État islamique, elle était rapidement dans la hiérarchie de l'information très très haut placée. Puis on en parlait beaucoup. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Il y a eu des enseignements qui ont été tirés aussi de ce qui s'est passé dans la couverture des attentats de Charlie Hebdo. Ça n'a pas été du tout le même type de couverture pour les attentats du 13 novembre.
Ce que vous voulez dire, c'est que les médias se sont un peu auto-éduqués à traiter le phénomène.
Il y a eu un apprentissage de ce traitement, oui.
Philippe Antoine, l'apprentissage, est-ce que c'est aussi par exemple de la formation de certains journalistes? Est-ce que c'est la rédaction d'une charte, par exemple? Est-ce que concrètement, on s'est attaqué au sujet dans les rédactions?
Je pense qu'on se pose sans doute plus de questions qu'avant, au-delà du traitement purement factuel et immédiat de l'histoire, sur la responsabilité des médias et des erreurs qui ont pu être commises après les attentats d'il y a un an. Oui, je pense qu'on s'est tous posé des questions. C'est voilà, et si ça se reproduisait, comment on ferait pour mieux traiter les choses? Et je pense que ce qui s'est passé en janvier, ils sont comparables et à la fois ils sont pas comparables, parce que dans l'histoire de l'hypercacher notamment.
Oui, pour nos auditeurs, rappelons-le rapidement, certaines chaînes, plusieurs, ont été accusées d'avoir donné des éléments qui pouvaient mettre en danger certaines des personnes qui étaient dans l'hypercacher avant l'assaut.
Voilà. Là, il y avait un côté, les médias étaient devant et on attendait l'assaut et l'issue. Là, pour ce qui est du Bataclan, l'issue, vous n'avez pas eu des reporters devant le Bataclan en train de raconter, voilà, c'est en ce moment, il y a une intervention, on n'a pas vu ou quasiment pas vu ça.
Et d'ailleurs, le ministère de l'Intérieur avait demandé qu'il y ait un certain délai, que les images soient un petit peu décalées, chose que les chaînes de télévision d'information continue ont respecté. Est-ce que ça a été pareil, par exemple, pour les radios? Puisque vous dirigez la rédaction d'une radio RMC.
On a eu les mêmes contacts avec les autorités, ministère de l'Intérieur notamment. Mais le travail des reporters au moment du Bataclan, ça a surtout été de raconter certains survivants qui ont quitté le Bataclan et qui ont été soignés. Des fusillades qu'on a entendues très proches du Bataclan avec les fusillades sur les terrasses. Donc tout ce récit a été fait. Le récit de ce qui s'est passé, de ce qui se passait à l'intérieur, on a assez su peu de choses très vite. On l'a su dans la nuit, mais pas tout de suite. Alors que, concernant l'hypercacher, on a su beaucoup de choses très vite.
David Thompson, je voudrais revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, le traitement de la propagande qui est préparée par le groupe État islamique. Vous êtes très présent sur Twitter, par exemple. Nos auditeurs vous suivent peut-être et vous travaillez vraiment avec les réseaux sociaux. Est-ce que vous faites attention à ce que vous retweetez, à ce que vous diffusez avec cette question en tête, attention à ne pas participer à une propagande de l'État islamique?
Oui, parce que en tant que journaliste, quand on travaille sur ce sujet, on travaille sur une matière qui est une matière de propagande, que ce soit la propagande officielle ou des sources personnelles au sein de ces groupes. La critique qui revient quand on travaille sur cette matière-là, c'est est-ce que, en travaillant sur cette propagande, en utilisant ces documents, vous n'alimentez pas la propagande? Moi, en fait, je suis assez à l'aise sur ce sujet-là, puisque le gros des troupes, si j'ose dire, des combattants étrangers, que ce soit les Tunisiens, les Français, sont partis rejoindre la Syrie et l'Irak, à ce moment-là, le sujet était totalement absent des médias. Et ça n'a pas empêché tous ces gens de partir. C'était, je pense, à l'année 2012 et je pense à l'année 2013 jusqu'à 2014. Aujourd'hui, on est passé dans un extrême inverse, c'est-à-dire qu'on est passé d'une absence totale du sujet dans les médias à une sorte de sidération et une omniprésence aujourd'hui du sujet dans les médias. Donc il y a un seuil de saturation, à mon avis, qui est atteint, que ce soit pour les téléspectateurs, les auditeurs, mais aussi pour les journalistes, parce qu'on n'allume pas un journal aujourd'hui sans entendre le mot djihadiste, sans entendre le mot État islamique. Il y a un effet saturation, mais en même temps, il y a une actualité qui est réelle. C'est-à-dire, les groupes
et qui n'est pas que française, hein, je montrais tout à l'heure.
Ces djihadistes ont redéfini, sont en train de redéfinir des géopolitiques régionales. Ils sont en train de mettre en branle les sécurités nationales d'une bonne partie des États de la planète et de tous les États européens. Donc, on ne peut pas ne pas en parler.
Les médias, nous, médias, parlons-nous trop de terrorisme? C'est le débat de ce soir avec nos deux invités. David Thompson, que vous venez d'entendre, qui est donc journaliste à RFI. Philippe Antoine, directeur de la rédaction de la radio RMC. David Thompson nous parlait tout à l'heure d'un seuil de saturation. Est-ce que vous savez, au niveau de votre audience, de vos auditeurs, comment c'est perçu? Est-ce que c'est des choses que vous posez dans les enquêtes, par exemple, comme question?
On n'a pas posé directement la question. Après, on a une émission le matin, en fin de matinale, entre 9h et 10h, où il y a beaucoup d'appels d'auditeurs autour de débats, de trois questions en général chaque matin. Et oui, alors, est-ce que ça s'exprime comme ça? On sent que il y a encore beaucoup de questions sur la sécurité, sur les services de renseignement, sur... évidemment le débat autour de la déchéance de nationalité. Donc il y a encore beaucoup de questions et je pense qu'il y a encore beaucoup d'auditeurs qui demandent des éléments, là encore factuels, pour se faire une opinion, notamment sur la déchéance de nationalité, où le débat n'a pas l'air d'être aussi tranché que ça, en tout cas.
On l'a encore vu ce soir, pouvoir. Puisque François Hollande a reçu des responsables politiques pour voir où en était le débat.
Absolument, et ça fait quand même deux mois que ça dure, depuis le discours devant le Congrès. Donc moi je pense qu'il y a encore... un besoin de savoir, parce qu'on ne sait pas tout, et que les politiques notamment posent des questions. Commission d'enquête, est-ce qu'on a suffisamment de forces de sécurité en France aujourd'hui? Est-ce que les services de renseignement ont bien suivi les 8 ou 9 djihadistes qui ont commis ces attentats? Est-ce que la route des migrants est sûre? Est-ce que Schengen nous protège? Est-ce que voilà, il y a encore énormément de questions, et on n'a pas encore toutes les réponses. Donc il y a encore un intérêt, et il y a encore, je pense, pour nous journalistes, matière vraiment à enquêter et à poser des questions aux responsables. Je pense notamment à Saint-Denis. Voilà, l'assaut à Saint-Denis, on nous avait dit, bah oui, on a 5000 cartouches qui ont été retrouvées, 5000 douilles. Bon, le fait est, c'est que on sait pas vraiment précisément ce qui s'est passé et pourquoi on n'a pas retrouvé de Kalachnikov dans l'appartement, alors qu'il y a eu 5000 douilles de tirer. Donc voilà, il y a des questions. Sur le Bataclan, c'est pareil, même si c'est des questions qui fâchent un peu. L'intervention au Bataclan, est-ce qu'elle a été parfaite de la part des forces de l'ordre? Là aussi, il y a des questions encore à poser.
Donc besoin de traitement des conséquences de ces actes terrorisme. David Thompson, vous êtes très sollicité à RFI, et pas seulement d'ailleurs. Est-ce que vous sentez pas aussi un besoin de décryptage du phénomène djihadiste?
Alors ça nous ramène à un débat. Tout le monde n'est pas d'accord sur la question de décrypter. Est-ce qu'il faut décrypter? Il y a cette phrase du Premier ministre Manuel Valls qui était de dire
chercher des raisons sociologiques, c'est ça?
Voilà, expliquer c'est excuser. Cette question-là fait débat. Est-ce qu'il faut comprendre? Est-ce qu'il faut... Oui, non. Je pense qu'effectivement il y a un besoin de compréhension. Les gens, même s'il y a ce seuil de saturation qui a été largement atteint, le sujet aujourd'hui, on ne peut pas en faire l'économie, et je pense que les gens ont besoin de comprendre, ne serait-ce que parce que on n'est qu'au début de ce phénomène aujourd'hui. Je pense que tous les experts sont d'accord sur ce point. 2015 a été une année très sanglante, 2016 le sera sans doute également. Il y a déjà eu 3 attaques incitées par la propagande, même si on peut discuter sur certaines d'entre elles depuis 2016. Il y aura tout au long de l'année ce type d'attaques qui vont se reproduire, et il y aura sans doute aussi des attaques beaucoup plus meurtrières de gens qui ont été formés militairement qui vont revenir. Donc ce sujet ne va pas disparaître de l'actualité.
Ce sujet ne va pas disparaître, et d'ailleurs il a ressurgi parfois de manière éloignée et avec quelques erreurs des journalistes. On va écouter à ce sujet-là un extrait d'un discours de Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation.
D'un acte d'une grande gravité dans une école, dans un établissement scolaire qui est censé être un sanctuaire. C'est évidemment inadmissible que d'avoir ce type de violence. J'ai tenu à me rendre très rapidement auprès de l'équipe enseignante pour pouvoir lui apporter mon soutien. J'ai rencontré les collègues de cet enseignant agressé qui sont d'ailleurs, je tiens à le dire, très dignes, très courageux.
la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, qui s'était déplacée très rapidement mi-décembre à Aubervilliers, puisqu'un enseignant d'une école dans le nord de Paris affirmait alors avoir été agressé au petit matin par un homme se revendiquant de l'État islamique. Et on apprenait quelques heures plus tard que cet homme avait tout inventé. Philippe-Antoine, les chaînes de radio, de télévision, les journaux, les lives sont allés très très vite sur cette affaire. On est vite parti en breaking news, on a en tout cas traité l'information. Est-ce que parfois on ne va pas trop vite sur des sujets qui ne sont pas très clairs, des informations qui ne sont pas recoupées ?
Sans doute un peu trop vite, oui. Moi je me souviens qu'on l'a traité au début en étant extrêmement prudent sur la nature djihadiste des faits. Et plus l'information en elle-même de quelqu'un qui rentre dans l'école comme cet enseignant, rien que une agression comme ça dans une école, il faut la traiter. Après, le côté djihadiste est venu ensuite. Mais oui, on va sans doute par moments un peu trop vite, oui.
Sur le côté, c'est intéressant ce que vous dites, nature djihadiste des faits. Il y a cette question du curseur David Thompson sur pas mal d'actions d'actualité qui se sont manifestées ces dernières semaines.
Ce qui est drôle sur cette affaire de la fausse agression de cette école, puisqu'en fait le professeur avait ensuite expliqué qu'il avait rien du tout, c'est que les djihadistes eux-mêmes, qui sont dans l'instantanéité aussi de la réaction, c'était eux-mêmes rapidement félicités de Syrie, de cette action, étant persuadés que c'était le fait d'un de leurs partisans. Donc eux-mêmes ont été dupés par ce professeur. On peut citer aussi l'exemple de Saint-Denis, où la cousine du coordinateur des attentats, Abaoud, avait été présentée comme une femme kamikaze, la première femme kamikaze. Les autorités, cette information venait de sources officielles, de sources policières du ministère de l'Intérieur. On a eu des émissions qui ont suivi, qui étaient consacrées au thème des femmes kamikazes, etc. Pour finalement se rendre compte le lendemain que c'était pas du tout le cas. Donc effectivement, ça c'est les risques de l'instantanéité de l'information.
Alors l'instantanéité de l'information, c'est quand même l'une des spécificités de BFM où vous êtes passé, mais d'aujourd'hui quasiment tous les médias. Philippe-Antoine, est-ce que il faudrait pas mettre en place, des règles pour aller moins vite sur ce genre d'information, parce qu'on voit bien que le contexte joue dans l'importance qu'on leur donne.
Des règles, je pense qu'on a chacun, chaque média a sa propre façon de fonctionner. Des règles qui régiraient la façon de fonctionner de tous les médias, je trouve que ce serait contre-productif. Et puis surtout, on l'a bien vu, entre les attentats d'il y a un an et les attentats du mois de janvier, ce sont pas les mêmes et les médias n'ont pas réagi de la même façon. Et alors si on avait mis des règles après ce qui s'était passé à l'hypercacher, est-ce qu'elles auraient été applicables pour les événements du Bataclan? Je pense pas. Donc voilà, moi pour les règles, chacun a sa façon de traiter. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord, et ça c'est aux auditeurs, aux téléspectateurs de le dire, mais par principe, des règles régissant notre travail de journaliste, non, moi, je suis contre.
David Thompson, pour terminer, c'est déjà la fin de cette émission. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de la manière dont le groupe État islamique en particulier est attentif aux retombées médiatiques de certaines de ses actions ?
Faut bien imaginer que de Raqqa, il regarde absolument tout ce qui se fait en termes médiatiques en France, toutes les radios, tous les journaux, et il scrute le moindre article sur eux. Ils réutilisent tout, et d'ailleurs, dans leurs vidéos de propagande, ils récupèrent des images, des chaînes infos, etc., pour eux-mêmes en faire leur contre-discours.
Et ils utilisent même les formats d'information pour certaines de leurs publications.
Ils reprennent des magazines sur le mode des newsmag qui sont les newsmag français, d'un niveau très très élaboré. Donc ils regardent tout ce qui se dit, tout ce qui se fait sur eux. Peut-être qu'ils nous écoutent là d'ailleurs actuellement.
Eh bien voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à nos deux invités. Philippe-Antoine, qui est donc le directeur de la rédaction de la radio RMC, qui est une radio voisine de RFI. David Thompson, en charge des questions djihadistes à RFI. Auteur du livre « Les Français djihadistes » qui est paru aux éditions Les Arènes. Merci à Florence Pons, à Pauline Leduc pour la préparation et la réalisation de cette émission. On se retrouve demain. En attendant, c'est le journal en français facile qui vous est présenté par Zéphirin Quadio avec Edmond Sadaka.